السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
دو تین دن ہوئے
quelques jours auparavant le missionnaire en charge du Royaume-Uni, M. Atal Mujib Rashid, m'a écrit pour m'informer que cette année-ci, cela fait 125 ans que la prophétie du Muslim Maoud ou du réformateur promis a été annoncée. Selon le style de sa lettre, on dirait qu'il voulait que je fasse un sermon à ce sujet, même s'il ne l'a pas dit clairement dans sa lettre. Chaque année, on organise des rencontres concernant la prophétie du Muslim Maoud. Deux ans auparavant, j'ai fait un sermon à ce sujet, même si je n'ai pas pu couvrir le sujet tout entier dans ce seul sermon. Moi-même, je n'étais pas enclin à présenter un sermon à ce sujet, mais je l'ai fait parce que c'était une grande prophétie, une prophétie qui ne concerne pas une personne uniquement. C'est une prophétie qui a trait à la renaissance de l'islam. En fait, c'est une prophétie faite par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'il est important d'en faire mention. C'est vrai que là où on a la liberté d'organiser des rencontres au sein de la communauté pour parler à ce sujet, on organise ces rencontres. On parle concernant les différents aspects de cette prophétie. Les orateurs présentent différents points concernant cette prophétie. Mais au Pakistan, on ne peut pas organiser de telles rencontres. Et il est important de faire mention de ce sujet afin que les nouvelles générations puissent en profiter. Les jeunes et les nouveaux venus doivent être informés à ce propos. Cela ne concerne pas uniquement les nouveaux venus. On doit faire des rappels à ce sujet en raison des vicissitudes de la vie. Et il est probable que même certaines personnes d'un certain âge n'est pas de grande connaissance à ce propos. Il se peut que ces personnes n'aient pas médité à ce sujet, et aujourd'hui, ces personnes seront peut-être enclins à écouter davantage à ce propos. Il est donc important de mentionner cela en faisant des rappels. Que l'on soit un nouveau venu ou que l'on soit un ancien, l'on progresse toujours dans sa connaissance, dans sa spiritualité et dans sa foi. Ensuite, comme on le sait, la communauté Ahmadiyya est en train de progresser à grande vitesse dans beaucoup de pays par la grâce de Dieu. Et les orateurs ou les mollims de ces régions ne connaissent pas tous les aspects de cette prophétie concernant le réformateur promis. Ces personnes n'ont pas la connaissance nécessaire pour mentionner tous les aspects de cette prophétie. C'est pour cette raison qu'il est important d'en faire mention. C'est vrai que c'est le Messie promis à l'Islam qui a fait cette prophétie, à savoir que Dieu lui accordera un fils qui sera le réformateur promis ou le Muslim Maoud. Et il a aussi évoqué les caractéristiques de ce fils promis. En fait, ce fut le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui a fait cette prophétie 1400 ans de cela en disant à ce sujet Yanzelo Isa ibn Maryama ila al-ard fayatazawaju wa yuladu lahu, en savoir que Jésus-Christ, fils de Marie, descendra, il se mariera et aura des enfants. Comme nous le savons déjà dans d'autres hadiths, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qui sera le Messie ou Isa ibn Maryam. Cela a été évoqué dans le recueil de hadiths de Bukhari de Muslim. Le saint prophète a déclaré Kaifa antum idha nasra Isa ibn Maryama fikum wa imamukum minkum. Et il a dit ailleurs Fa ammakum minkum. C'est-à-dire, quel sera votre état lorsque Jésus-Christ descendra parmi vous et quand il sera un imam de parmi vous? Puisqu'il sera l'un des vôtres, il vous dirigera. Dans un autre hadith, le saint prophète a déclaré « Celui qui sera en vie parmi vous verra l'époque de Isa ibn Maryam. Il sera le Mahdi, le Hakam, le Had, il brisera la croix et tuera le porc. » C'est un hadith de Musnad Ahmad bin Hanbal. Cette prophétie a trait à la renaissance de l'islam. Cette prophétie a été réitérée en détail par le Messie promis alayhi salam, l'amour parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dieu lui a demandé de réitérer cette prophétie, mais ce fut en fait le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui, 1400 ans de cela au plus, a fait cette prophétie. Les prophéties du Messie promis à l'Islam et les faveurs que Dieu lui a accordées ne sont pas en raison de sa grandeur personnelle. Ces prophéties ont été faites et ces faveurs ont été accordées pour prouver la grandeur et l'éminence de son maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il puisse faire flotter le drapeau du saint prophète paix soit sur lui dans le monde. Ces prophéties faites en faveur du Messie promis à l'Islam ont pour objectif de prouver en fait la grandeur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam afin de prouver que le Dieu de l'islam est vivant, afin que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est vivant. C'est pour cette raison que Dieu a répété ses prophéties par l'entremise du Messie promis, alayhi salam. L'Ahmadiyya n'est pas quelque chose de différent de l'islam, et il n'y a pas de amoureux du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus dévoué que le Messie promis, alayhi salam. Le Messie promis, alayhi salam, dit ceci à propos du saint prophète. Il déclare maintenant sous la calotte du ciel, il y a un seul prophète et un seul livre, à savoir le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand d'entre les prophètes, le plus parfait de tous les messagers et le sceau des prophètes et le meilleur des hommes. En le suivant, l'on rencontre Dieu. En le suivant, l'on se débarrasse des voiles des ténèbres. Et grâce à lui, on voit sur cette terre les signes du salut et le Saint-Coran et la direction parfaite. Grâce au Coran, l'on arrive à acquérir les connaissances spirituelles. Grâce au Coran, on se débarrasse des impuretés humaines. Et grâce au Saint-Coran, l'on se débarrasse des voiles ténébreux, des doutes et des incertitudes. Pour atteindre la connaissance certaine. Lorsqu'on lit chaque parole du Messie promis à l'islam, lorsqu'on regarde chacune de ses actions, dans chacun de ses écrits, nous constatons qu'il nous mène vers Dieu, vers le Saint-Coran, et vers le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il avait informé le monde, il avait informé clairement qu'aujourd'hui, s'il y a sur terre une seule religion vivante, eh bien c'est l'islam. Aujourd'hui, le seul prophète vivant qui peut nous mener à Dieu, c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En le suivant, l'on peut atteindre Dieu. Et le seul livre parfait, exempt de toute interpolation et de toute impureté, et qui est dans son état originel, grâce auquel l'on arrive à acquérir les connaissances parfaites, grâce auquel l'on arrive à se purifier le cœur, si l'on est sincère. Il y a des personnes qui ne sont pas pures et qui ne tireront aucun avantage de leur lecture du Saint-Coran. Voilà ce que Dieu nous a dit. Ainsi donc, le Messie promis à l'Islam nous a empli de cette connaissance. Il nous a accordé cette connaissance que le seul prophète vivant aujourd'hui, c'est le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a menés à Dieu, c'est lui qui nous a guidés vers lui et c'est lui qui a établi cette relation entre nous et lui afin que les ténèbres disparaissent des cœurs, afin qu'il y ait ce lien entre Dieu et les hommes. Et le livre vivant qu'il a porté, c'est le Saint-Coran, le Coran qui renferme tous les commandements de Dieu ainsi que toutes les interdictions. Et c'est en suivant ces préceptes que l'on atteindra Dieu. Et l'homme n'est pas à même de présenter des enseignements pareils. 1400 ans de cela, ce grand prophète a établi un lien vivant entre celui qui va le suivre et Dieu. Et ce lien est toujours vivant 1400 ans après. Lorsque l'époque de la prophétie « Wa akharina minhum lamma yalhaqqu bihim » devait se réaliser, ce fut cet amour entre le maître et le serviteur qui fut la cause de la venue du Messie. C'est ainsi que la foi est descendue du ciel. Et la foi apportée par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam s'est répandue avec un nouvel éclat par l'entremise du Messie promis alayhi salam. Et les premiers ont rencontré les derniers. Cela a été évoqué dans des hadiths. Cela a été évoqué dans un hadith qui concerne le fait que l'on va apporter la foi de nouveau sur terre. Hadrat Abu Huraira radhiyallahu anhu raconte que nous étions en compagnie du saint prophète lorsque la sourate Al-Jumma lui fut révélée. Quand il récita le verset « Wa akhrina minhum lama yalhaqu bihim » dont le sens est « Et ceux d'entre eux qui ne les ont pas encore rejoints » c'est-à-dire qu'il y aura d'autres qui vont venir rejoindre les compagnons. Quelqu'un qui était présent demanda « Qui sont-ils, ô envoyés d'Allah ?» Ces personnes qui ont le statut des sahaba mais qui ne sont pas encore parmi eux. Le saint prophète Mohammed P. S.A. lui garda le silence. Et l'homme répéta sa question à deux ou trois reprises. Salman, le persan, était parmi nous, raconte le rapporteur. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur lui et déclara. Law kana al-imanu inda Thuraya lanaluhu rijalun min haula. Même si la foi devait monter jusqu'au Pléiade, même si la foi devait disparaître de la terre, il y aura des hommes parmi eux qui vont apporter cette foi sur terre. Dans ce hadith, on trouve mention de Rajulun et de Rijalun. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad a annoncé plus tard qu'il était le Messie promis. Mais avant même cette annonce, il servait déjà l'islam. Lorsqu'il a annoncé qu'il était le réformateur du siècle, suite aux révélations de Dieu, il a publié une annonce en anglais et en langue ourdou. Il a annoncé que Dieu m'a choisi comme le réformateur de l'époque. Et j'ai pour tâche de prouver la véracité de l'islam ainsi que sa suprématie sur toute autre foi et de montrer au monde aujourd'hui que le livre vivant, c'est le Saint-Coran et que la religion vivante, c'est l'islam et que le prophète vivant, c'est le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi annoncé Dieu m'a conféré les excellences spirituelles de Jésus, fils de Marie. Et il a invité les gens de toute foi et de toute religion pour leur demander d'accepter son défi et d'éprouver l'islam et sa véracité. Il a aussi annoncé que seul l'islam sera le moyen de se libérer des maladies spirituelles. Et non pas d'autres religions. Cette annonce a créé un séisme parmi les suivants des autres religions en Inde. Mais personne n'a eu le courage de venir de l'avant et d'accepter ce défi que de mettre à l'épreuve la véracité de l'islam. Il y avait des musulmans qui avaient abandonné l'islam pour se faire de grands prêtres chrétiens, parmi lesquels il y avait Imaduddin. Et ces prêtres ont pris la décision de ne pas accepter ce défi et de ne pas demander des signes concernant l'islam. Il y avait un certain prêtre, Swift, et l'Ikram, qui ont apparemment accepté ce défi. Mais les événements d'après ont prouvé que ce n'était que de l'ostentation de leur part. Les détails concernant ce sujet ont été consignés dans les livres du Messie premier l'Islam et dans l'histoire de la communauté Ahmadiyya. Je ne vais pas en faire mention aujourd'hui. En tout cas, le Messie promis à l'islam a fait cette invitation en faveur de l'islam. Il a publié cela dans son ouvrage « Izala et Oham ». Il déclare à ce propos que cette personne humble est là pour inviter les gens vers l'islam. J'ai publié 12 000 annonces pour inviter les gens vers l'islam et j'ai envoyé cela aux représentants des peuples, aux chefs et aux souverains. J'ai même envoyé une lettre recommandée et une annonce au prince britannique. J'ai même envoyé cela au premier ministre britannique, M. Gladstone. Et j'ai écrit aussi au prince Bismarck et aux autres souverains de différents pays. J'ai un coffre rempli de toutes ces invitations. Il est évident que l'on ne peut accomplir ces tâches sans pouvoir spirituel. Je ne l'ai pas fait pour prouver ma grandeur, mais je l'ai fait pour présenter la vérité, afin que ceux qui sont en quête de la vérité n'aient point de doute. Le Messie promis al-Islam a accompli cette tâche afin de prouver la véracité de l'islam, afin d'arrêter le déluge causé par le christianisme. C'est là qu'il a eu le désir de faire cette retraite spirituelle afin d'implorer Dieu. Et pour cela, il est parti hors de Qadian afin d'accomplir cette retraite spirituelle. Et Dieu lui a révélé qu'il devait partir à Hoshiarpur. Ainsi, il y est parti là-bas le 22 janvier 1886. Et il a accompli cette retraite spirituelle et Dieu lui a donné des bonnes nouvelles concernant le progrès de l'islam. Et lorsque cette retraite a pris fin, le 20 février 1886, le Messie promis à l'islam a publié une annonce à ce sujet dont le titre était Risala Siraj Munir. Il a publié cela dans le journal Riaz-e-Hind d'Amritsar. Et cette annonce a été publiée le 1er mars 1886. Il a écrit à ce sujet que je vais publier les détails concernant ces prophéties après. La première prophétie concerne ma personne et je la publie en résumé ce 20 février 1886, le 15 Jamadul Awwal. Je publie quelques parties de cette prophétie aujourd'hui et je vais donner des détails à ce sujet après, Inch'Allah. Il déclare que Dieu, le miséricordieux, le noble, l'exalté, le tout-puissant, m'a révélé les paroles suivantes. En disant, suite à tes supplications, je te confère un signe de ta miséricorde. J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. De même, j'ai béni ton voyage de Hoshiarpur et de Ludhiana. Un signe de pouvoir, de miséricorde, de ma proximité t'est accordé. Je t'octroie un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du succès et du triomphe. La paix soit sur toi, ô vainqueur. Ainsi par Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, afin que ceux qui sont enfuis dans leur tombe puissent en sortir, afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ses bénédictions, afin que le mensonge et ses abominations disparaissent, afin que les hommes comprennent que je suis le Tout-Puissant et que je fais ce que je veux, afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le choisi, soient confrontés à un signe évident, afin que la voie des coupables soit manifeste. Réjouis-toi, car un fils beau et pur te sera accordé. Tu recevras un jeune brillant qui sera de ta semence et de ta progéniture. Un beau garçon pur sera ton invité. Son nom est Emmanuel et Bachir. Il a été investi d'un Esprit Saint et sera immaculé. Il est la lumière d'Allah. Béni soit celui qui vient du ciel. La grâce l'accompagnera. Grandeur, éminence et richesse seront siens. Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de sa parole majestueuse. Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. Il sera humble et sera empli de connaissances séculières et spirituelles. Il transformera trois en quatre. Le sens de cette phrase n'est pas clair. C'est un lundi béni, fils délice du cœur, de haut rang et noble, une manifestation du premier et du dernier, une manifestation du vrai et du très haut, comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénie à l'ultime degré et sera la manifestation de la majesté divine. Une lumière va poindre, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit et il sera sous la protection de l'ombre de Dieu. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur et grâce à lui, ceux qui ont été emprisonnés retrouveront la liberté. Sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Ensuite, il sera exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. Dieu m'a aussi donné la bonne nouvelle qu'il va emplir ma maison de ses bénédictions et qu'il va compléter ses faveurs sur moi et que j'aurai une grande descendance et qu'il va augmenter le nombre de mes descendants. Certains d'entre eux vont mourir en bas âge et tes descendants vont se répandre dans les quatre coins du monde et tes frères n'auront pas de descendants quant à eux. Et ils vont mourir sans laisser de descendants. Et s'ils ne se repentent pas, Dieu va les frapper de calamités jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Leurs maisons seront remplies de veuves. La colère de Dieu va frapper leurs murs. Mais s'ils retournent vers Dieu avec repentir, Dieu va se tourner vers eux. Dieu va répandre tes bénédictions et va remplir ta maison de bénédictions. Tes descendants vont vivre jusqu'au dernier jour. Dieu va honorer ton nom jusqu'au dernier jour de ce monde. Il va transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre et je vais t'appeler vers moi, mais ton nom ne va jamais disparaître de la surface de la terre. Tous ceux qui désirent ardemment ton humiliation et tous ceux qui veulent te détruire vont subir tes échecs. Ces personnes mourront dans la défaite et Dieu va t'accorder de grands succès et il va exaucer tous tes désirs. Je vais grandir le nombre de ceux qui sont sincères envers toi. Je vais bénir leurs personnes et leurs biens. Je vais augmenter leur nombre et au jour de la résurrection, ils auront suprématie sur les autres musulmans, sur ceux qui sont jaloux et des fauteurs de troubles. Dieu ne va pas les oublier, il ne va pas les abandonner. Ils seront récompensés selon leur sincérité. Ton statut auprès de moi est similaire à celui des prophètes des enfants d'Israël. Tu es auprès de moi selon mon unicité. Je suis de toi et toi tu es de moi. Ce moment est proche lorsque Dieu va mettre ton amour dans les cœurs des rois et des souverains. Et ils chercheront des bénédictions de tes vêtements. Ô vous qui rejetez la vérité, Si vous avez des doutes concernant mes serviteurs, si vous rejetez ces faveurs que nous avons accordées à notre serviteur, alors présentez d'autres signes de votre part. Si vous êtes véridique et si vous ne pouvez pas présenter des signes, sachez que vous ne pourrez pas présenter ces signes, alors craignez ce feu qui a été préparé pour les désobéissants et pour les menteurs. Cette annonce a été publiée dans le journal Riaz-e-Hind. Voilà les bonnes nouvelles qui ont été accordées par Dieu au Messie promis à l'Islam suite à sa retraite spirituelle. On trouve la bonne nouvelle qu'il aura un fils qui possédera différentes qualités. Si l'on regarde tout cela en détail, on constatera qu'il possède des 52 qualités. Dans un autre endroit, le Messie promis l'Islam a évoqué 58 qualités. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré que le Messie viendra et qu'il aura des enfants. La plupart des gens ont des enfants. Il n'y a rien de spécial à ce sujet. Mais si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une prophétie, cela veut dire qu'il y avait un point important à ce sujet. Et cela voulait dire tout simplement qu'il aura des enfants qui posséderont des qualités grâce auxquelles ils vont diffuser le message de la foi dans le monde. Des personnes qui vont diffuser le message de l'unicité de Dieu. Des personnes qui vont montrer la grandeur et l'éminence du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En 1889, naquit Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife. Et ce fut au cours de la même année, c'est-à-dire en 1889, que le Messie premier l'Islam commença à accepter le serment d'allégeance de ses suivants. Dieu lui a donné cette permission d'accepter ses serments d'allégeance et il fonda la communauté Ahmadiyya au cours de cette année. La communauté Ahmadiyya qui doit maintenant transmettre le message de l'Islam. Des personnes qui vont faire partie de cette communauté vont devoir se réformer. Ayant accepté le Messie et le Mahdi, ils ont pour tâche de parachever la mission du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut pour cela que le Messie premier l'Islam a fondé cette communauté. Je vais mentionner quelques-uns de ces qualités qui ont été évoquées concernant le musulmaoud ou le réformateur promis, des qualités que le Messie premier l'Islam a mentionnées concernant ce fils promis. Ce fils grâce auquel il va transmettre le message de l'Islam au monde, grâce auquel il va réformer le monde. L'année au cours de laquelle le musulmaoud a reçu des révélations de la part de Dieu, qu'il était ce réformateur promis, dans un discours de la Jalsa Salana, il a mentionné ces 52 signes. Des signes que je vais mentionner en résumé. Il déclare que si l'on regarde ces prophéties de près, l'on constatera que celui qui viendra possédera ces qualités suivantes. Le premier signe est qu'il sera un signe de pouvoir. Deuxièmement, un signe de miséricorde. Troisièmement, un signe de la proximité de Dieu. Quatrièmement, un signe de grâce. Cinquièmement, un signe de faveur. Sixièmement, qu'il aura du succès. Septièmement, qu'il sera triomphant. Huitièmement, qu'il possédera de grandes richesses et qu'il possédera les pouvoirs messianiques et qu'il guérira beaucoup de personnes de leurs maux grâce à l'Esprit Saint. Ensuite, il sera la parole de Dieu, Deuxièmement, que Dieu l'a investi de la parole majestueuse et de l'honneur divin. Treizièmement, il sera doué d'une grande intelligence. Quatorzièmement, il sera doué d'une grande compréhension. Ensuite, il sera très humble. Sixièmement, il sera pétri de connaissances séculières. Dix-septièmement, qu'il sera pétri de connaissances spirituelles. Dix-huitièmement, qu'il transformera 3 en 4. Dix-neuvièmement, c'est que le lundi sera lié à sa personne. Ensuite, il sera un fils délice du cœur. Vingt-et-unièmement, il sera de haut rang. Et il sera à la manifestation du premier. 23e, il sera la manifestation du dernier. Le 24e signe, c'est qu'il sera la manifestation du vrai et il sera aussi la manifestation du Très-Haut. Le 26e signe, c'est comme si Dieu est descendu du ciel grâce à sa venue. Le 27e signe, c'est que sa venue sera bénie à l'ultime degré. 28e, c'est que sa venue sera la manifestation de la majesté divine. Il sera lumière. Le 30e signe, c'est qu'il sera une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Ensuite, Dieu va déverser sur lui son esprit. 32e, c'est qu'il sera sous la protection de l'ombre de Dieu. Le 33e signe, c'est que son prestige prendra rapidement de l'ampleur et il va libérer ceux qui ont été emprisonnés. Le 35e signe, c'est que sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre. Et des peuples seront bénis par son entremise. Il sera exalté à son rang spirituel au ciel. Ensuite, il est dit qu'il viendra avec du retard. Le 39e signe, c'est qu'il viendra de loin. Le 40e signe, c'est qu'il sera la fierté des prophètes. Le 41e signe, c'est que ces bénédictions vont se répandre dans les quatre coins du monde. Ces bénédictions spirituelles vont se répandre dans le monde. Ensuite, ses frères aînés vont s'opposer à lui à l'instar des frères du prophète Joseph. Ensuite, il sera une bonne nouvelle pour le monde. Le 45e signe, c'est qu'il va se marier. Le 46e signe, c'est qu'il sera à la Mekawab. Il sera aussi le reflet de la beauté du Messie promis à l'Islam. Le 48e signe, c'est qu'il sera la parole du Tout-Puissant. Le 49e signe, c'est qu'il sera la parole de Dieu. Le 50e signe, c'est qu'il sera le soutien de la religion. Le 51e signe, c'est qu'il sera le victorieux de la foi. Le 52e signe, c'est qu'il sera le deuxième Bachir. Chacun de ces signes pourra être un sujet d'un discours. Voilà donc ces signes, et si nous étudions tout cela à la lumière de la vie du deuxième calife, et si nous regardons les 52 ans de son califat, nous constaterons que chacun de ces signes s'est accompli en lui. Je ne pourrai pas aller en détail aujourd'hui à ce sujet. Ces détails ont été mentionnés dans les livres de la communauté. Je vais mentionner certains détails après. Lorsque le Messie promis à l'Islam a publié ses prophéties, le Pandit Lekram a utilisé des paroles viles à son encontre. Et pour chaque prophétie, il a fait montre de sa vilenie et de ses bassesses. Je vais présenter quelques-unes des paroles viles du Pandit Lekram. Je vais donner des exemples à ce sujet. Le 18 mars 1886, en utilisant un langage des plus insolents, le Pandit Lekram a publié un article sarcastique concernant le Messie premier, l'Islam, en disant que toutes ces paroles viennent de la part de Dieu. Il a déclaré que le Messie premier, l'Islam, a déclaré que Dieu m'a dit qu'il va m'accorder de nombreux descendants. Le Pandit Likram réplique que sa descendance ne va pas durer longtemps et qu'ils ne vont pas vivre plus de 3 ans. Même si un enfant naît, cet enfant ne sera pas un signe de miséricorde, mais un signe de malédiction. Il ne sera pas le réformateur promis, na'ouzoubillah, mais le fauteur de troubles promis. C'est ainsi que le Pandit Likram a répliqué à chacune des caractéristiques mentionnées par le Messie premier l'Islam pour s'en moquer. Et il a aussi déclaré que Dieu m'a dit que c'est un menteur et que je n'ai jamais exaucé ses prières. Et tout le monde sait comment est mort le Pandit Likram. Il a utilisé un langage sarcastique concernant le Messie premier l'Islam, un langage insolent. C'était un hindou et le Messie premier l'Islam lui a lancé un défi à ce sujet. Il y a certains prêtres chrétiens qui ont dit la même chose. Mais certains musulmans aussi ont été coupables de ces vilainies. Suite à leurs paroles, le Messie premier l'Islam a publié cette annonce en disant concernant la grandeur de ce fils promis, il a déclaré l'on doit ouvrir les yeux et voir que ce ne sont pas uniquement des prophéties, mais c'est là un très grand signe du ciel. Un signe que Dieu a montré afin de prouver la véracité et la grandeur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce signe est beaucoup plus grand et plus parfait que le signe de faire revivre les morts. Car faire revivre les morts signifie implorer Dieu et lui demander le retour de l'esprit. Et par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a exaucé mes prières et a promis d'envoyer cet esprit dont les bénédictions vont se répandre dans les 4 coins de la terre. Apparemment, ce signe équivaut à faire revivre les morts, mais en méditant davantage à ce sujet, l'on comprend que ce signe est meilleur que le signe de ranimer les morts. Les morts retrouvent la vie grâce à la prière. Et ici, grâce à la prière, j'ai demandé à Dieu une âme, mais il y a des différences énormes entre ces âmes et cette âme que j'ai demandée. Ceux qui, parmi les musulmans, sont des apostats ne sont pas contents de voir les miracles en faveur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces miracles les blessent profondément. Ces prophéties se sont réalisées au cours des 52 ans du califat du Muslim Maoud. Il a progressé et il a accompli cette œuvre pour l'islam. Il a fait bâtir des mosquées, il a envoyé des missionnaires. En dépit des manques de moyens, à l'époque, il a pu faire établir la communauté Ahmadiyya dans 44 ou 45 pays du monde. Le Saint-Coran a été traduit en plusieurs langues. On a ouvert des missions dans différents pays. Et c'est lui qui a mis en place le système administratif de la communauté. Et jusqu'à présent, ce système est en train de marcher. Et on ne peut présenter le meilleur système. Il y a aussi les organisations auxiliaires qui travaillent jusqu'à présent. Chaque travail qu'il accomplit prouve sa perspicacité et son intelligence. Il y a aussi son commentaire du Saint-Coran. Il y a aussi d'autres œuvres intellectuelles. Tout cela prouve sa connaissance séculière et sa connaissance spirituelle. Je dois dire ici aussi que le Messie promis alayhissalam savait lui-même que ce fils était le réformateur promis, ce fils dont le nom était Bachiruddin Mahmoud Ahmad. Cheikh Mohammed Ismaël, un compagnon du Messie promis alayhissalam, déclare que nous avons entendu à plusieurs reprises de la bouche du Messie promis alayhissalam que c'est Mir Mahmoud, c'est-à-dire le deuxième calife, qui est le fils promis évoqué dans les prophéties. Le Messie promis alayhissalam a déclaré que Mir Mahmoud est empli d'ardeur pour la foi et que je prie spécialement pour lui. Le Muslim Aoud n'a pas appliqué à sa personne ses prophéties tant qu'il n'a pas été informé par Dieu à ce sujet. Il a fait un long rêve à ce propos, et dans ce rêve, il y avait une partie qui concerne des visions et des révélations. À la fin, il a déclaré que je jure par Dieu et j'annonce que je suis ce fils promis. Voilà ce que Dieu m'a informé. Dieu m'a fait savoir que je suis ce fils promis à Hadrat Mirza Ghulam Ahmad et c'est moi qui va transmettre jusqu'aux confins de la terre le nom du Messie promis alayhi salam. Il a fait ce rêve en 1944. Je vais maintenant présenter quelques témoignages des non-musulmans ou des non-ahmadis concernant le Muslim Aoud ou le réformateur promis. Il y a le Molvi Samuel Khan Farouki qui a publié une annonce dont le nom est Israr Haq, dans lequel il a écrit que Dieu a informé Hadrat Mirza Ghulam Ahmad qu'il va donner naissance à une personne parmi ses descendants dans sa jamaat à qui il va accorder sa proximité. La vérité va progresser grâce à lui et nombre de personnes vont accepter la vérité grâce à lui. Le Molvi Samuel Khan déclare « Lisez et relisez cette prophétie et demandez-vous, cette prophétie s'est-elle accomplie ou pas ?» Lorsqu'il a fait cette prophétie, le calife était encore un enfant et Mirza Ghulam Ahmad ne l'avait pas encore choisi comme calife et n'avait pas fait de testament concernant la personne qui sera calife après lui. Il a laissé le choix du calife aux membres de sa communauté. Et après son décès, la majorité ont accepté Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu comme son calife. Et ses adversaires ont dit que cette prophétie ne s'est pas réalisée. Mais après le décès de Hakim Molvi Nuruddin, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad fut choisi comme calife. Et c'est une vérité que l'Ahmadiyya a progressé à grands pas au cours de son califat. Il déclare aussi qu'il y avait très peu d'Ahmadis au cours de la vie de Mirza Ghulam Ahmad. Et ce nombre d'Ahmadis n'a pas progressé au cours du califat de Molvi Nuruddin. Mais ce fut au cours de ce deuxième califat que la Mizaya s'est répandue dans les quatre coins du monde et certainement leur nombre va doubler après 1931. Et les adversaires des Ahmadis ont tout fait pour arrêter leurs efforts et auparavant ils n'avaient pas fait autant d'efforts. Ainsi donc, un descendant de Mirza Ghulam Ahmad a établi sa communauté et grâce à lui, sa communauté a progressé à grands pas. Cela démontre clairement que cette prophétie de Mirza Ghulam Ahmad s'est réalisée à la lettre. Il y a un journaliste sikh, M. Anjan Singh, l'éditeur du Rangin, qui a écrit qu'en 1901, alors que Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad était encore enfant, Mirza Ghulam Ahmad a publié ses vers en disant qu'il déclare que Dieu a dit « Je te donne la bonne nouvelle d'un fils qui sera mon bien-aimé. Je vais enlever les ténèbres grâce à lui. Il va transformer le monde. » C'est une bonne nouvelle. Saint est celui qui avilit mes ennemis. Le journaliste sikh écrit que cette prophétie ne peut que nous étonner. En 1901, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad n'était pas un grand érudit. On n'avait pas encore compris ses qualités politiques. À l'époque, Mirza Ghulam Ahmad a dit que son fils sera ainsi, ainsi. Tout cela nous fait comprendre qu'il possédait de grandes puissances spirituelles. On aurait pu dire que Mirza Ghulam Ahmad a placé un trône. C'est pour cette raison qu'il devait avoir l'espoir que son fils allait hériter ce trône. Mais tout cela est complètement faux. Parce que Mirza Ghulam Ahmad n'a pas placé les conditions pour le califat, c'est-à-dire que le calife va devoir être choisi de ses descendants. Ainsi, le premier calife n'était pas un membre de la famille de Mirza Ghulam Ahmad, et il se peut qu'après le décès de Hakim Nuruddin, une autre personne soit choisie comme le deuxième calife. Et Maulvi Muhammad Ali voulait être choisi comme calife, mais la majorité des membres de la communauté ont soutenu Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad et il fut élu calife. La question est, si Mirza Ghulam Ahmad ne possédait pas de puissance spirituelle, comment aurait-il pu savoir qu'il aura ce fils qui possédera de telles qualités? Lorsqu'il a fait cette annonce, il avait trois fils. Il priait pour ses trois fils, mais il a fait la prophétie concernant un seul de ses fils. Et nous constatons que cette prophétie s'est réalisée et que cela a apporté un changement dans le monde. Concernant ce fils promis, il a été dit qu'il possédera une grande connaissance de ce monde et des connaissances spirituelles. Raja Hassam Nizami, un journaliste de l'Inde, écrit à ce sujet que Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad était dans la plupart des cas malade, mais la maladie n'affectait pas ses œuvres et son travail. Il a fait face avec sérénité à une tempête d'hostilité et il a prouvé sa bravoure de Mongol. Et il s'est comporté en tant que Mongol. Il avait une grande perspicacité politique, une grande intelligence concernant la théologie. Et il maîtrisait l'art de la guerre intellectuelle et maîtrisait l'art de la guerre par la plume. Une des prophéties concernant ce fils promis, c'est qu'il va libérer les prisonniers. Cette prophétie s'est réalisée d'une façon extraordinaire et cela ne peut que nous frapper d'émoi. Il y a eu ce mouvement pour la libération des musulmans du Cachemire. On avait formé pour cela le comité All India Kashmir Committee. Et les grands ulémas musulmans comme Sayyid Zulfiqar Ali Khan, le docteur Samuel Muhammad Iqbal, Raja Hassan Nizami Delvi, Sayyid Habib, tous ces grands intellectuels musulmans ont fondé ce comité le 25 juillet 1931 et ont choisi Hadrat Khalifatul Masih Athani comme le président de ce comité afin de lutter en faveur des musulmans du Cachemire qui étaient privés des droits les plus élémentaires. En peu de temps, ces musulmans ont retrouvé la liberté, ont accepté leurs droits politiques et on a pu établir pour la première fois une assemblée et il y a eu la liberté d'expression. Et la Muslim Press a loué les œuvres de Hadrat Muslim Maoud. Il y est écrit que, alors que la situation des musulmans du Cachemire était des plus précaires, ceux qui ont choisi Mirza Saheb comme président de ce comité, en dépit de leurs divergences de doctrine, ont fait le meilleur choix. Si il n'avait pas choisi Mirza Saheb en raison des divergences de doctrine, eh bien ce mouvement aurait échoué complètement et cette Oumma aurait subi de grandes pertes. Abdul Majid Salik écrit à propos du Cachemire que Cheikh Mohamed Abdullah et les autres personnes qui ont lutté pour la libération du Cachemire avaient des contacts directs avec Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, et tout cela parce que Mirza Saheb possédait de grands moyens et parce qu'il a aidé le mouvement pour la libération du Cachemire. C'est pour cette raison que les gens du Cachemire étaient reconnaissants envers lui. Allama Niaz Fatehpuri a commenté sur le Tafsir Kabir, le commentaire du Muslim Aoud. Il lui a écrit à ce sujet et il déclare que « J'ai lu le Tafsir Kabir volume 3 et je l'ai étudié avec attention. Il n'y a point de doute que vous avez auguré un nouvel angle dans l'étude du Saint-Coran. Et ce tafsir, ce commentaire est le premier dans son genre et ce tafsir est en accord avec la logique. Chaque parole de ce commentaire prouve votre connaissance, votre perspicacité et votre justesse. Et je suis vraiment malheureux de ne pas avoir lu cela auparavant. Si seulement j'avais pu lire tous les volumes. Hier, j'ai lu le commentaire de la Sourate Al-Hud et j'ai lu vos commentaires concernant le prophète Lot et cela m'a ravi complètement. Et j'étais contraint de vous écrire cette lettre. Votre commentaire concernant Ha'oula et Banati est loin des commentaires des autres exégètes et je ne serai pas à même de vous féliciter à ce sujet. Il a écrit cela en 1963. Le Maulana Abdul Majid Diriabadi, qui était lui-même un exégète du Saint-Coran et qui était aussi un éditorialiste, a écrit après le décès du deuxième calife qu'Allah le récompense pour sa connaissance du Saint-Coran et pour sa traduction du Saint-Coran. Au cours de sa vie, il a accompli ses œuvres, qu'Allah les récompense. Sa connaissance du Coran et sa traduction du Saint-Coran sont tout aussi distinguées et grandioses. Voilà donc en résumé l'arrière-plan de cette prophétie et comment elle s'est réalisée en la personne du deuxième calife, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. Ses œuvres intellectuelles ont présenté un nouveau monde et nombre de personnes ont accepté cela. Je vous ai présenté quelques exemples à ce sujet. À n'importe quelle occasion, lorsqu'il a écrit à propos de la société, de la religion ou de la politique, ou lorsqu'il a fait des discours à ce sujet, ou lorsqu'il a conseillé la Oumma à ce propos, tout le monde était impressionné par sa perspicacité, par son érudition et par sa spiritualité. Il était le réformateur promis pour le monde. Il est venu apporter des réformes morales et spirituelles et sociales. Au cours de ses 52 ans en tant que calife, hormis ses sermons du vendredi, il a aussi fait de nombreux discours. Il a aussi écrit d'innombrables ouvrages. Et tout cela en écrit se transforme en un grand trésor spirituel. La Faisal Umar Foundation a été fondée après la mort du deuxième calife par le troisième calife et cette fondation est en train de publier tous ses discours du deuxième calife. Jusqu'à présent, ils travaillent dessus. Je crois qu'ils ont déjà publié 21 volumes à ce sujet, hormis les sermons du deuxième calife. Le titre de ces volumes est Anwarul Uloum. Et chaque volume contient environ 6 à 700 pages. Profitant de cette occasion, je m'adresse à la Fazal Omar Foundation et je leur dis de compléter sa tâche au plus vite. Ils doivent réunir tout cela dans la langue ourdou et faire aussi des efforts pour traduire cela dans d'autres langues. Le Muslim Maoud a déclaré dans un endroit que Dieu a facilité pour nous notre tâche en réunissant toutes ces langues en quelques langues. Il y a d'innombrables langues, mais il y a certaines langues qui sont principales, qui sont courantes dans le monde. C'est-à-dire, hormis la langue ourdou et arabe, il y a les langues anglaises, allemandes et françaises qui sont parlées dans différents coins du monde. Et si l'on traduit ces ouvrages en ces langues, l'on pourra transmettre ce message à 90% de la population du monde. On a déjà traduit certains ouvrages du deuxième calife, mais il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine afin d'apaiser la soif spirituelle du monde. Les autres départements sont en train de traduire cela et non pas la Fazal Omar Foundation, mais cette tâche doit être accomplie par la Fazal Omar Foundation. S'ils ne l'avaient pas fait dans le passé, je leur attire l'attention à ce sujet, car les autres départements sont en train de traduire les autres livres du Messie promis alayhi salam, et ils sont aussi en train de traduire, dans la mesure du possible, les ouvrages du deuxième calife. Ils doivent aussi traduire d'autres ouvrages de la Jamaat. En tout cas, cette fondation va devoir travailler davantage dans ce domaine. C'est en raison de ce manque de traduction des ouvrages du deuxième calife que certaines personnes ont volé certains de ses écrits et ont publié ces ouvrages en leur nom. Un missionnaire de l'Arabic Desk m'a écrit concernant un des ouvrages du deuxième calife, dont le titre est Minhaj al-Talibin, qui est un chef-d'œuvre qui concerne la moralité et la réforme spirituelle. Cet ouvrage a été écrit par le deuxième calife, et une personne a tiré du matériel de ce livre, a traduit cela en arabe et l'a publié en ce nom. C'était une personne qui maîtrisait la langue ourdou, alors que le deuxième calife avait dit que j'ai médité beaucoup sur cette question et j'ai compris beaucoup de choses qui concernent la moralité par la grâce de Dieu. C'est en méditant sur cela que nous allons comprendre l'importance des œuvres accomplies par le deuxième calife. Et comme je l'ai dit auparavant, en fait, tout cela est le résultat des prophéties faites par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cela prouve ses excellences et son éminence. Mais l'on doit aussi se souvenir que cette prophétie n'est pas liée à la naissance d'une seule personne ou à ses œuvres qu'elle a accomplies. Nous allons comprendre l'importance de cette prophétie lorsque nous allons accomplir ces tâches pour lesquelles était venu le Messie promis à l'Islam. Et pour l'aider dans cette tâche, Allah lui a accordé ce réformateur promis, ce Muslim Maoud. Et ce dernier a utilisé toutes ses capacités pour prêcher le message de l'Islam dans le monde. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous doit essayer d'être un réformateur dans notre cercle respectif. Par notre connaissance, par nos paroles, par nos actions, nous devons transmettre aux autres le message sublime de l'islam. Nous devons réformer nos âmes. Nous devons réformer nos enfants et nous devons aussi réformer la société. Et nous devons aussi faire des efforts pour transmettre ce message au monde. Et la source de ce message était le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si nous suivons ses conseils et que nous vivons selon ses conseils, c'est là que nous allons nous acquitter de notre devoir envers ce jour de la célébration du Muslim Aoud. Sinon, nos discours seront vides de sens. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Après la prière de Jumma, je vais diriger la prière funéraire de Mukarrama Kanita Orchard Sahiba, épouse de feu Mohlana Bashir Ahmad Orchard. Elle est décédée le 16 février 2011 à l'âge de 81 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la petite-fille du docteur Khalifa Rashiduddin Saheb, un compagnon du Messie premier l'Islam et la fille de Khalifa Alimuddin. Et elle était la nièce de la mère du troisième calife. La mère du troisième calife, qui était aussi la première épouse du deuxième calife. Cette dame, Kaneta Ochad Sahiba, était une dame très simple. Elle possédait de grandes qualités, elle était sincère envers le calife. C'était une dame très sincère, elle avait une grande confiance en Dieu. Elle a soutenu son époux qui était un Wakfi Zindagi, ils ont travaillé à Trinidad et en Guyane, et elle a servi dans la Lajna Imaïla. Elle fut Sadar Lajna Imaïla pour 10 ans en Écosse. Elle était une moussi. Elle a laissé 2 filles et 3 fils. Je connais 4 de ses enfants qui sont toujours en train de servir la communauté. Monsieur Bashir Orchard Saheb a accepté l'islam au cours de son service militaire en Inde en 1945. Il est parti rencontrer le deuxième calife là-bas et il a embrassé l'Ahmadiyya. Et en 1946, il a dédié sa vie et il fut le premier missionnaire anglais. Et c'est le deuxième calife qui avait choisi son épouse. Il a travaillé en tant que missionnaire aux Antilles, en Écosse et à Oxford. Lorsqu'il a embrassé l'Ahmadiyya, le deuxième calife a déclaré que je n'avais pas espoir que les Anglais vont se tourner vers l'islam, mais en le voyant, j'ai compris qu'un grand nombre d'Anglais va embrasser l'islam. En tout cas, cette dame a soutenu son mari dans son travail. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah lui accorde un haut rang au paradis et qu'il accorde patience à tous ses enfants.